Bonjour à tous, ça y est, avec 6 minutes de retard, excusez-moi. Voilà, c'était les inconvénients du direct avec ma fille, avec les enfants. Mais bon, ça y est, on y est. On est dans notre étude normale. Bon, 6 minutes de retard, 7 minutes de retard, de toute façon, c'est l'heure à laquelle j'arrive en général. Donc, Zebeseder, je n'ai rien non plus. Oui, Daphna, ça veut dire quoi, je n'ai rien non plus? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez ou si je suis encore une fois tout seul. Je vois qu'il y a 7 personnes qui sont là. Donc, Zé, Baruch HaShem, on peut commencer. Alors, la grande question, je vais vous dire c'est quoi la grande question. La grande question, c'est de savoir, et ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce qu'on continue à étudier la paracha ou est-ce qu'on étudie un petit peu de Pessah pour se préparer à Pessah. Et la vérité, je ne me rappelle plus ce qu'on a étudié la semaine dernière. Est-ce qu'on a commencé Pessah ou est-ce qu'on a continué la paracha? Je crois qu'on avait étudié la paracha, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, vous savez quoi? On va essayer de faire un petit peu de bricoler les deux. C'est-à-dire, comme d'habitude, on va essayer de bricoler les deux, à savoir un petit coup de paracha et un petit coup de Haggadah. Alors, notre paracha, on ouvre en fait Sefer Vayikra. Et le Sefer Vayikra est fondamentalement différent du Sefer Bereshit et Shemot. Quelle est la grande différence? Je vais vous poser ça là parce que sinon je vois que ça bouge. Voilà. Donc le Sefer Vayikra est fondamentalement différent de Bereshit et Shemot. Pourquoi? Eh bien, Bereshit et Shemot, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Milemala Lemata. C'est le dévoilement de Dieu d'en haut vers le bas. Ce n'est pas vraiment à nous de répondre à Dieu à ce niveau-là. Tous les éléments sont un dévoilement du haut vers le bas. D'ailleurs, les deux livres, Bereshit Shemot, nous, on les sépare en deux, évidemment. Mais il faut savoir que dans la tradition d'Israël, il y avait un autre nom qui était donné à Shemot, qui s'appelait Sefer Sheni, le deuxième livre. Deuxième livre de quoi? Pas parce que c'est le deuxième, parce que Vayikra, ça n'a jamais été appelé le troisième. Non, le deuxième Bereshit. Bereshit Bet, genre. La notion de Shmuel Aleph, Shmuel Bet a été donnée par les chrétiens, mais on pourrait imaginer que les Chachamim, à l'époque, ils voyaient le livre de Shemot comme étant la suite logique de Bereshit. Monique, je ne comprends pas ce que ça veut dire parapha. Je n'ai rien non plus. Parapha, vous dites des choses qui m'échappent. Je pense que ça doit être de la Kabbalah. J'y sais pas. En tout cas, les malas, du bas vers le haut, qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. C'est la réponse. C'est-à-dire que le premier verset de la paracha et du livre nous dit « Vayikra Hashem El Moshe Miro El Moed ». C'est-à-dire que certes, l'appel vient de Dieu, c'est pour nous rappeler d'où on vient, mais tout l'objectif, c'est que l'homme vienne maintenant et fasse son boulot de réponse. Et donc, tout l'intérêt du livre de Vayikra, et de la paracha en particulier, c'est de répondre à l'appel du Créateur. Et là, c'est un problème. C'est un problème parce que si on décide nous-mêmes de comment on peut s'attacher à Dieu, eh ben, ok, semaine dernière, paracha, très bien. Si on décide nous-mêmes de se lier à Dieu, on a toutes les chances de se planter. Je m'explique. Dieu, il est infini. Moi, je suis très fini. Ce qui veut dire que si maintenant je devais essayer de chercher le numéro de téléphone de Dieu, ça on a déjà expliqué cela, eh bien, j'ai une infinité de possibilités pour trouver le bon numéro. Or, moi, je vais essayer une fois. Chaque fois, ça sera une fois. Ce qui veut dire que je vais faire 1 sur l'infini et c'est ça qui va me donner la statistique de combien de chances j'ai de tomber sur le bon numéro. Or, comme vous le savez, en mathématiques, 1 sur l'infini, ça fait 0. C'est-à-dire que si moi, j'essaye de parler à Dieu, j'ai une infinité de possibilités de tomber sur un faux numéro. Et c'est quoi un faux numéro quand on parle de Dieu? Ça s'appelle Avodah Zara. C'est-à-dire que si l'homme commence de lui-même et décide comment se lier au divin, il a toutes les chances de tomber à côté. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé quand on a fait le veau d'or. Quand on a fait le veau d'or, on a cherché nous-mêmes un moyen de nous lier à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Veau d'or! Idolâtrie. C'est-à-dire que si on avait attendu un tout petit peu, Moshe serait descendu, nous aurait dit que Dieu, il a dit, on doit faire des krouvim, des statues en or, mais de la bonne façon, Et comme ça, on aurait fait des statues en or, mais dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan, ça aurait été la folie. Mais là, on a voulu nous-mêmes instaurer la relation avec Dieu. Boum, Avodah Zara. En d'autres termes, il faut que l'appel vienne de lui pour que je puisse répondre. Il en va de même, d'ailleurs, dans la Tfila. Dans la Tfila, je ne peux pas prier parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Seuls les prophètes pouvaient prier à l'époque du Tanakh, tout simplement parce que le prophète, c'est celui à qui Dieu a parlé, et donc il sait à qui répondre. C'est pour ça que dans tout le Tanakh, les seuls qui parlent, les seuls qui prient, sont les prophètes, parce que c'est ceux à qui Dieu a parlé. Alors si vous me demandez, alors comment ça se fait que nous on prie, tout simplement parce que dans notre tfila, qui s'appelle la Amida, la Shmoné Esré, eh bien, ce sont les derniers prophètes qui ont mis en place le texte de la Shmoné Esré. Donc, ils y ont mis tout leur monde prophétique à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'il nous faut l'appel d'en haut pour pouvoir répondre d'en bas. C'est fondamental de répondre, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, aucune communication réelle. Quelqu'un qui m'appelle, si je ne décroche pas, je ne décroche pas. Donc Dieu, il peut parler à la créature, mais si la créature ne répond pas, c'est comme si on faisait un dialogue de sourds. Donc, la réponse de la créature à son créateur est fondamentale. Et le livre de Vaïkra, eh bien, c'est justement cette réponse. La paracha de Vaïkra, plus particulièrement, c'est le point de départ de cette réponse. Et quelle est la réponse? C'est-à-dire l'action qui est mise en place par l'homme pour se lier à Dieu, eh bien, dans notre paracha, c'est ce qu'on appelle les korbanot. Alors, vous allez me dire, mais il y a la tfila dans tout ça. Oui, il y a la tfila aussi, excusez-moi. Il y a la tfila également, bien sûr. Mais alors que la tfila, à l'époque, était spontanée, c'est-à-dire lorsque je ressentais le besoin de prier, eh bien, je priais. Elle n'avait pas cette dimension matin, midi, soir, comme on a aujourd'hui. Cette dimension était celle des korbanot. Il y a un korban le matin, un korban la fin de la journée, quoi, et il y a des parties du korban qui brûlent sur le misbéar toute la nuit. Donc, en d'autres termes, la notion matin, midi, soir, c'est une notion korbanique et pas une notion tfilatite. Lorsqu'on a détruit, enfin, lorsque le Beit HaMikdash a été détruit et qu'on a pu, on ne pouvait plus faire les korbanot, à ce moment-là, eh bien, on a lancé un style korbanique pour la tfila. Et on lui a donné cette dimension de tfila le matin, midi et soir. Donc, à la base, le korban. Le korban, mais à quoi sert-il? Et là, je voudrais que les choses soient bien claires. Un korban, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'au XXIe siècle, on n'est pas un petit peu au-delà de tout ça? C'est pas un peu barbare, cette histoire de korbanot? Plus aucun son. C'est moi? C'est moi qu'on n'entend plus? Non, bizarre. Cette histoire, donc, de korbanot, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu au-delà de tout ça? Est-ce qu'on n'est pas... On a évolué, on n'est plus barbare comme à l'époque. C'est une idée. C'est une idée qui a été avancée par pas mal de gens. De dire que ce n'est pas la peine de faire maintenant les corbanotes. Si déjà on refait le Beit HaMikdash, on ne fait pas les corbanotes avec parce que c'est un peu barbare et ce n'est pas très vegan. Non. Mamash lo. Certes, le Rav Kook nous dit... dans son livre, enfin son article « Chazon HaTzimchonut VaHashalom », le rêve du véganisme et de la paix, que lorsque les animaux s'élèveront au niveau de l'homme, alors on ne fera plus les korbanot et on ne les mangera plus non plus. D'accord ? C'est-à-dire que dès que tu rencontres une vache qui dit « Salut, comment ça va ?», alors, effectivement, ne l'achrite pas. Bon, a priori, c'est pas toutes les vaches qui font « Salut, comment ça va ?». Et j'aimerais te dire la chose suivante également, au vu de notre façon de consommer les aliments aujourd'hui, de l'abattage en masse et ainsi de suite, franchement, un abattage au Beit HaMikdash, ça me paraît quand même vachement moins barbare que les abattages à la chaîne des poulets et différents bovins. Donc, de me dire qu'on est au 21e siècle et que c'est un petit peu barbare de parler de tout ça, à mon avis, c'est extrêmement hypocrite. Certes, lorsque les animaux s'élèveront, alors on pourra rediscuter. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et voilà la situation actuelle. La situation actuelle, elle est qu'on ne sait pas ce qu'apporte le korban dans notre relation à Dieu et dans le monde en général. D'accord, j'entends ce que vous dites. J'entends. Je vais donc changer d'endroit. Attendez. Voilà. OK. En espérant que c'est mieux. Ça marche chez vous ? Ça marche pas, Houston ? Bon ? Oui. OK. Alors, on est reparti. Donc, le problème, le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'apporte le Corban dans notre vie. Et oui, vu qu'on n'est plus du tout en mode Corbanote depuis maintenant près de 2000 ans, eh bien, le monde du Corban nous est complètement étranger. Et donc, il va falloir qu'on essaie de comprendre à quoi ça sert. Bien, je vous le dis. À quoi sert le Corban ? D'abord, à quoi ça ne sert pas ? Le Corban n'a pas de vocation sanctificatrice. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais un Corban que j'ai fait échouer. Ce n'est pas parce que j'ai amené mon Corban que ça y est, je suis pardonné de mes péchés. C'est une étape, si jamais j'ai fait des péchés, si jamais j'ai fait des fautes, alors c'est une étape de kapara. Mais la kapara ne sera kapara que si j'ai fait teshuva d'abord. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'emmener un korban si tu es encore tout à fait heureux du mal que tu as fait. Donc, le korban a une notion de kapara, mais ça, c'est après la teshuva. Seulement, le korban khatat, ou Hacham, qui vient justement l'échapper, c'est un corban, certes, mais ce n'est absolument pas le corban idéal. C'est un corban qui vient me substituer, c'est-à-dire qui vient se substituer l'animal à moi. C'est-à-dire, d'après la halakha, lorsque j'emmène un corban khatat, je dois mettre mes mains dessus et penser que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi et qui finalement arrive à l'animal. Mais pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple. Réfléchissons deux secondes. Il y a 3800 ans, Dieu se révèle à Abraham et lui dit « Allez, prends ton fils et amène-le sur la montagne en Ola. » Évidemment que Abraham a bien compris qu'il s'agissait d'un corban, d'un sacrifice humain. Il n'est pas plus étonné que cela puisque c'est ce qu'il a vu à Haran, c'est ce qu'il a vu à Our Kasdim, c'est ce qu'il a vu dans toutes les cultures environnantes. Corban Adam. Et donc, il se décide de sacrifier Yitzhak. Le chidouche du judaïsme et de la Hakeda, c'est que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire « Non, je ne veux pas que tu le tues finalement. » Alors pourquoi tu m'as demandé de le faire ? Et c'était juste pour me tester. Il y avait de ça, mais il y avait autre chose. Il y avait que tu comprennes qu'est-ce que représente Yitzhak. Yitzhak est formé de deux dimensions. Enfin, pas que Yitzhak, vous et moi également. On est formé de ce qu'on appelle un corps et une neshama. Ou dans le langage du Admon Hazaken dans le Tanya, Nefesh Elohit et Nefesh Behemit. Une âme divine et une âme animale. Donc tout ça, c'est Beseder Gamour. Aval. Réflexion. La Nefesh Elohit, où est-ce qu'elle se représente dans l'homme ? Où est-ce qu'elle se dévoile dans l'homme ? L'âme animale, elle se dévoile dans mon ventre, elle se dévoile dans tous les trucs que je fais au quotidien, il n'y a pas de problème. Mais la Nefesh Elohit, où se dévoile-t-elle ? Eh bien, elle se dévoile tout simplement dans ma volonté. C'est là-bas qu'elle s'exprime. Et donc, lorsque je mets Yitzhak sur le Mizbeach, lorsque Yitzhak accepte d'aller sur le Mizbeach, sa volonté, il l'a sacrifiée. Son corps, un bélier fera très bien l'affaire. Et c'est pour ça que lorsque je mets mes mains sur l'animal, je dois penser que c'est ce qui aurait dû lui arriver. Lui à l'animal. En cela, ça devient un korban khatat. En cela, j'ai pu expier. J'ai compris, et ça c'est le grand chidouche de notre paracha, que Dieu ne veut pas de korban Adam. Le début de la paracha commence en me disant « Adam qui akriv mikem, korban lachem. » Un homme qui déciderait d'emmener un sacrifice d'entre vous, c'est-à-dire d'entre l'humain. Et là, tout de suite, le verset continue en disant « Mina bakar, mina tson, tagrivo et korbanchem. » Non, prenez un bovin à la place, un animal. À condition que tu sois conscient qu'au niveau de la nefesh Elohit, c'est toi qui dois y aller. Mais ça, c'est si jamais il s'agit d'un korban d'expiation. Parce que moi, excusez-moi du terme, mais j'ai déconné. si par contre j'ai rien fait de mal. Parce que d'après ce que je suis en train de vous dire, il semblerait que les korbanot n'ont que fonction d'expiation. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. L'expiation est a posteriori. L'homme n'est pas obligé de fauter. Et donc, si l'homme ne faute pas, il n'a pas besoin d'expier. D'accord ? L'homme ne faute pas forcément. L'homme peut ne pas fauter. Alors, vous me direz, c'est pas très chrétien ce que je dis. Oui, d'accord, c'est très juif. C'est pas chrétien du tout. C'est-à-dire, les chrétiens, eux, pensent que l'homme est fondamentalement fauteur. C'est-à-dire que l'homme, parce qu'il est né, il est donc né d'une relation sexuelle de ses parents. Or, la relation sexuelle est la résultante du péché, chez les chrétiens, bien sûr. Donc, toute personne née d'une relation sexuelle est fondamentalement fauteur. Évidemment, ne vous en faites pas, les chrétiens viendront à la rescousse en disant que donc, seul un homme qui ne vient pas d'une relation sexuelle, eh bien, peut être le Messie, le sauveur, ce que tu veux. Et donc, bah, ils nous ont concocté une naissance, on va dire, miraculeuse. Hein ? Bon. Maintenant, où est-ce qu'ils ont tort, nos amis chrétiens ? Parce qu'ils ont tort. Ils ont tort. Alors, eux, ils te disent, mais non, mais il y a marqué que Adam a connu sa femme après l'expulsion du Gan Eden. C'est vrai que c'est mentionné après dans la Torah. Seulement, c'est marqué d'une certaine façon. Dans la Torah, c'est marqué « Ve Adam yada et Hava ishto ». Or, nous dit Rashi, que dans la Torah, lorsqu'on évoque un événement passé, on doit mettre d'abord le verbe et ensuite le sujet. « Vayikar terach ». D'abord le verbe et ensuite le sujet. Lorsqu'on met d'abord le sujet et ensuite le verbe au passé, nous dit Rashi, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. Ah, mais si c'est du passé antérieur, ça veut dire que c'est quand que ça s'est passé que Adam a connu sa femme ? Eh bien, au Gan Eden, avant la faute. En d'autres termes, l'acte sexuel n'est pas du tout la résultante du péché, bien au contraire. Donc, je peux ne pas fauter. Donc, si je ne faute pas, à quoi sert le korban ? Les amis, korban ne veut pas dire sacrifice. Sacrifice du sens sacré. Le korban, quand on dit sacrifice, ça a une notion péjorative, une notion... voilà, je ne vais pas vous redire le truc. Quand je demande à des groupes en Pologne, bon, pas en ce moment, parce qu'il n'y a plus de Pologne, parce qu'il n'y a plus d'avion, parce qu'il n'y a plus rien. Mais quand je demande en Pologne, vous savez, il y a un moment donné, on pose une question en Pologne. Il faut la poser. On parle de Shoah pendant toute la journée en Pologne. Il y a un moment donné, il faut poser la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Shoah ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça veut dire quoi, Shoah ? Quelqu'un a une idée ? Vous pouvez répondre. Je vous vois sur l'écran. Enfin, je vous lis sur l'écran. Quelqu'un sait ce que veut dire le mot « Shoah » ? Je vous laisse 3 secondes pour me répondre. Non, personne ? Monique, même pas toi ? Shoah, Shoah, ça ne veut pas dire « catastrophe ». Shoah, ça ne veut pas dire non plus « destruction ». Ça ne veut pas dire « et le pire ». Alors voilà, ça ne veut pas dire « extermination » non plus. Ça ne veut pas dire extermination non plus. Shoah, ça veut dire... Bah, comment je sais ? C'est un mot qui vient d'où ? C'est un mot qui vient du Tanakh. Donc, je vais aller voir dans le livre de Tehilim où il y a marqué le mot Shoah. Et comme je n'arrive pas très bien à le comprendre, eh bien, je vais aller voir Rashi, qui m'a traduit le mot Shoah. Bon, il l'a traduit en ancien français, parce qu'il n'arrivait pas à le dire en hébreu. Alors, il l'a dit en ancien français. Et il a dit « Broyana », ce qui veut dire en nouveau français « brouillard ». Brouillard. Maintenant, on va pas faire un cours sur la Shoah et ce que veut dire le mot Shoah, mais quelle est l'explication qui pour moi est la pire de toutes ? Pour moi, Shoah, ça ne peut pas vouloir dire holocauste. Parce que holocauste, ça fait référence donc à un korban hola. Plus personne n'entend ? Problème de technique. Problème de technique, je regarde si ça vient de mon côté, Rabotai. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça vient de chez moi. Si on entend. Bon, bah alors, c'est vous qui avez un problème, alors. Oh, c'est pas de ma faute, alors. Nounou. Donc, Shoah, ça ne veut... Enfin, pour moi, l'explication la plus difficile à accepter, Comment ça, ça tourne sur le visage de M. le rabbin? Et très bien, M. le rabbin. Et je pense que, Evelyne, c'est ton portable ou ordinateur qui bug. Donc, pour moi, je ne sais pas quoi vous dire, les amis. D'ici pas. Je ne peux pas faire mieux que là maintenant. Vous voulez qu'on arrête et qu'on essaye à un autre moment, qu'on réessaye, que je me reconnecte? Compliqué cette histoire. Très compliqué. Hop là. Attendez voir. On continue. C'est bon. D'accord. C'est bon. Yala, on y va. On est lancé. On ne s'arrête pas. Donc, j'ai dit pour moi, l'explication la plus difficile du mot Shoah que je n'accepte pas, c'est la notion d'holocauste. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que quoi? Toutes les personnes qui sont parties dans la Shoah sont des corbanotes, sont des sacrifices? Pas du tout. Pas du tout. Ce ne sont pas. La notion de corban, c'est du verbe lehit karev. Leakriv, karov, karov, c'est un rapprochement. Rapprochement, évidemment, si j'ai fait une faute, alors je me rapproche en expiant ma faute, pas de problème. Mais je peux aussi ne pas avoir fait de faute. Et lorsque je n'ai pas fait de faute, la création avec le Créateur. Dans la tfila, je m'exprime aussi pour relier le monde au Créateur. Mais le problème, c'est que les seuls qui participent à la tfila, ce sont les humains. Les animaux, le végétal, le minéral, qui sont également des créations de Dieu, eh bien, ne sont pas du tout en contact avec le Créateur depuis près de 2000 ans. Le Corban a pour vocation de venir tout simplement rattacher toute la création au divin. Par exemple, lorsque je fais mon Corban Mincha, duquel va devenir la Tfila de Mincha, j'emmène du végétal sur le Mizbeach. Lorsque je fais nissour à maïm, que je mets de l'eau sur le misbéar, à Soukot, ou alors lorsque sur chaque corban je mets du sel, c'est du minéral, j'élève également le minéral. Et évidemment, chaque corban d'animal, eh bien, c'est pour élever tout le règne animal. C'est de cela qu'on parle. Vous savez, vous rappelez, quand on était en France, on parlait de la vache qui rit. On disait la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Ah, on ne sait pas toujours pourquoi. Oui, oui, oui. Parce qu'une vache, lorsqu'elle va sur le misbéach, elle est très contente de pouvoir faire le lien avec Dieu. Vous allez me dire, elle va mourir. Inechiname. Ça dépend pourquoi elle va mourir. Ça dépend pourquoi. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui disait de manière humoristiquement, enfin humoristique, il disait comme ça, il disait, comment ça se fait qu'une vache, quand on lui fait la shrita, elle crie, alors qu'une carotte, quand on la sort du sol, elle ne crie pas. Il dit, parce que la carotte, dans tous les cas, elle va s'élever. C'est mieux d'être un animal que d'être un végétal. C'est mieux d'être un homme que d'être un végétal. Dans tous les cas, la carotte, elle sera mangée par un truc au-dessus d'elle, donc elle va s'élever. Alors que la vache, elle ne sait pas. Soit elle va être mangée par un tzadik, elle est très contente. Soit elle va être mangée par une vache avec un cerveau un peu plus intelligent que le sien, mais une vache quand même. Et là, il n'y a pas de raison. L'homme, lorsqu'il va amener son corban, il relie toute la création au Créateur. Ceci étant, il y a quand même un bémol. C'est quoi le bémol? Ben, le bémol, c'est que pour l'instant, l'homme, il amène son corban, mais ce n'est pas lui qui fait le corban. C'est le Kohen qui fait le corban. Ce qui fait que le Kohen, son rôle étant de faire le lien entre Dieu et nous, le peuple juif, eh bien, effectivement, le corban sert à relier Am Israël au Créateur par l'intermédiaire de toute la création. Il est fait, mais ils sont où les autres? Ils sont où tous les autres êtres humains? Eux aussi, ils ont envie d'envoyer des corbanotes. Eux aussi, ils ont envie d'être reliés à cela. Eh bien, c'est pour ça qu'arrivent à la rescousse les corbanotes idéaux. Alors, je ne sais pas si on dit corbanotes, c'est au féminin en hébreu, mais un sacrifice en français, c'est masculin. Alors, corbanotes idéal ou idéaux, vous choisirez. Quoi qu'il en soit, il y a un corban qui est l'idéal. Ce n'est pas le corban khatat, évidemment. Vous avez compris, le sacrifice d'expiation, absolument pas. C'est celui qu'on appelle le korban shlamim. Le shlamim est mangé également par le kohanim, une partie, mais surtout manger par celui qui l'a amené. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devient celui qui fait le lien avec Dieu grâce à son corban. Or, le peuple juif a pour rôle d'être un Kohen pour l'humanité, et donc on peut relier grâce à cela l'humanité toute entière. Mais ce korban shlamim, attention, le korban shlamim n'est pas toujours... Le korban shlamim, etc., n'est pas toujours un korban que tout le monde va en profiter. Yesh korban veyesh korban. Le top du top du top du korban shlamim, c'est celui qu'on appelle le korban toda. Le korban toda, il est très particulier. Certes, c'est moi qui vais le manger, mais pas tout seul. Parce que d'après la halakha, ce korban toda, je ne peux le manger que le soir où je l'ai amené et je dois lui accompagner 40 pains. Et du pain. 40 pains et un mouton entier en une soirée. Mais je vais jamais y arriver. Donc, que faire ? Bah, le seul moyen, vous l'avez compris, c'est d'inviter des gens. Le korban toda, son rôle, c'est d'inviter des gens pour raconter pourquoi tu dis toda à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, on m'a demandé, quelqu'un qui a été sauvé d'un accident de voiture, et m'a dit, voilà, je voudrais faire remercier Dieu, est-ce que je peux donner un gros chèque à une yeshiva pour faire de la tzedaka ? Allô ? Est-ce que je peux donner un gros chèque ? Allô ? Est-ce que je peux donner un gros chèque à une yeshiva pour remercier Akadosh Baruch Hu ? Je lui ai dit non. Tu veux faire de la tzedaka à une yeshiva, c'est très bien, mais pas pour dire merci. Prends le montant du chèque que tu voulais donner et paye une seouda de Hodaya à la yeshiva. Ça, oui. Et tu viendras et tu raconteras pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire qu'il faut associer les gens au dévoilement de Dieu. C'est ça le korban du top du top. Seulement, là, tu pourrais me dire, attends. Tu es en train de me dire que je peux amener un korban, le manger, me faire un kiff, et c'est ça qui s'appelle servir Dieu ? Ben oui. Ben oui, c'est exactement ça que je veux dire. Le Messias Yesharim, Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, nous dit dans l'introduction au Messias Yesharim, il nous dit que il y a deux avis qui s'affrontent. Est-ce que mon rôle dans le monde, c'est de faire mon devoir ou mon rôle, c'est de kiffer ? Et Ramchal répond en disant, ton rôle dans ce monde, c'est de faire ton devoir. Et ton devoir, c'est de kiffer. Iné, un dry de juif. C'est-à-dire, ton rôle, c'est de kiffer. C'est un concept. C'est-à-dire que terminer le judaïsme de moine, terminer le judaïsme de souffrance, terminer où plus tu souffres, plus tu es religieux, plus tu es en bad au niveau du Olam Hazé, et plus ça montre ton degré spirituel. Zemamash lokacha. Dieu veut que tu kiffes. Et c'est exactement ce qui se passe le soir du Seder. Le soir du Seder, vous vous rappelez de notre rachat, le rachat de la Haggadah ? C'est mon préféré, hein, j'en parle tout le temps parce que c'est mon préféré, bien sûr. C'est mon préféré d'ailleurs parce que dans les Haggadot qu'on avait à la maison chez mes parents à l'époque, quand on faisait le Seder à Metz, on avait séparé une partie du texte, que chaque enfant puisse participer et lise un petit truc. Et moi, je devais lire le rachat. Donc, si tu veux, je suis devenu de facto le rachat de la famille pendant toutes ces années. Rôle que j'accepte avec plaisir. Donc, je kiffe le rachat. Parce que le rachat, il a une vraie question. Le rachat, il dit « Ah ! Ma voda azot lachem ! Lachem velolo ! » Ouais, c'est comme ça qu'il faut le lire. Dans la Haggadah, il y a marqué « Ma rachat ma ou omer ?» Qu'est-ce qu'il dit le rachat ?« Ma voda azot lachem ! » Point. Genre, c'est quoi ce que vous faites ? De quoi parle-t-il ? C'est quoi la avoda de l'El Hatzeder ? Metz Irakodesh, bien sûr. En Safek. Quel est, d'ailleurs, à Metz, on ajoute une bracha qu'on ne fait qu'à Metz. Alors, il faut savoir que cette bracha, elle est marquée dans le Talmud comme étant une bracha qu'on n'a pas le droit de dire. Aval Chachmé Metz, au XIIe siècle, ils ont instauré qu'il faut la dire. Et on l'a dit donc dans Birkot HaShachar quand on est à Metz. Après avoir dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asa Ani Isha, eh bien on rajoute Ametz, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Magbia Shefalim, qui relève ceux qui se sont effondrés. Eh ouais, c'est une bracha qu'on rajoute Ametz. C'est pour ça que je me rappelle très bien de ma première année en Israël. Première année en Israël, donc il n'y avait pas le corona. Et donc, je ne sais pas, deux semaines ou un truc comme ça, juste avant Pessah, où les élèves de Chutznikim, ils avaient prévu de, une partie repartir chez leurs parents qui habitaient en France. Nous, on avait, à cette époque-là, un cours du Rav Cherki pour les francophones, mais en hébreu. Donc, on n'était que trois en cours, c'était génial. Et je me rappelle, donc, c'est un des derniers cours juste avant la pause de Pessah. Et il a dit, bon alors, qui n'a rien compris ce qu'on a étudié depuis six mois et part en Gaule pour Pessah ? Alors, ce n'était pas fair play parce que dans le groupe, on était trois dans le cours. Et parmi les trois, il y en avait deux qui avaient leurs parents qui avaient déjà fait leur alliance, qui habitaient en Israël. Donc, il n'y a que moi qui ai levé la main. Et là, le Rav Cherki me dit, ah non, mais toi, c'est moutard. Toi, c'est moutard de partir à Metz parce que tu vas à Metz. Et qu'à Metz, il y a une bracha qu'on ne peut faire que là-bas. Et donc, c'est une des raisons du Rambam de dire qu'on a le droit de quitter Eretz Israël, c'est de faire une Torah qu'on ne pourrait faire que là où on va. Et effectivement, cette bracha, on peut la faire que à Metz, donc évidemment que Metz ira Kodesh. Quoi qu'il en soit, eh bien, notre rachat dans la Haggadah, nous, d'habitude, enfin, ce qui est marqué dans la Haggadah, c'est le rachat, qu'est-ce qu'il dit ? Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce service divin que vous faites ce soir ? Sauf que si on réfléchit deux secondes, c'est quoi le service divin en question ? C'est le Korban. Korban Pessah. Maintenant, dans le texte de la Haggadah, on dit « Ma avoda azot lachem », point. Et la Haggadah, genre, elle reprend, le narrateur reprend et dit « Lachem velo lo ». Il a dit « Lachem », il n'a pas dit « lui », il s'est exclu du peuple, machin, non, non, non. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk disait que la ponctuation, elle n'est pas marquée dans le texte originel de la Haggadah. L'imprimeur a mis de la ponctuation, mais ce n'est pas marqué dans l'origine. Donc, on peut ponctuer autrement. Et lui, il dit qu'il faut ponctuer autrement. Il dit « Racha ma'u omer ». Le racha, qu'est-ce qu'il dit de point ouvrir les guillemets ?« Ma avoda azot lachem, virgule, lachem velolo, point d'exclamation. » C'est-à-dire, c'est quoi ce service-là que vous faites ? Comprenez-moi, le Korban Pessah. « Lachem velolo, c'est pour vous, c'est pas pour lui. » Mais qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Eh bien, je vous l'ai déjà raconté, je le raconte tout le temps, parce que j'ai tellement kiffé que je le raconte. Je ne sais plus combien de sédères, où je suis en Israël pour le Seder, et je vais chez des amis Témanim, qui n'ont pas pris l'habitude, eux, de ne pas manger de la viande grillée à Pessah. Eux, ils mangent tout. Ils mangent tout, il n'y a pas de problème, et donc ils mangent de la viande grillée à Pessah. La folie. Donc moi, je suis arrivé chez mes Témanim, truc de fou. Je suis arrivé chez mes Témanim, et comment te dire, le père de la famille, chochette de son état, a pris un kéves, un agneau, l'après-midi, et il l'a chrité. L'après-midi, la veille de Pessah. Parce que l'après-midi de Pessah. Ce soir, c'est Pessah, quoi. Il a chrité l'agneau, il l'a vidé, machin, nan, et il a planté une espèce de broche énorme de part en part de l'animal, et il l'a fait rôtir sur le feu toute l'après-midi, dehors, au barbecue. Vraiment, c'était, on se croyait vraiment dans la fin d'un album d'Astérix, et je me permets de dédier ce cours à l'élévation de l'âme de Uderzo, qui nous a quitté, le dessinateur d'Astérix, paix à son âme, voilà. Il nous a fait tellement kiffer qu'on peut bien le lui rendre un petit peu. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'était vraiment, on se croyait dans un album d'Astérix, le sanglier qui rôtit, et on est arrivé le soir, maintenant, quand on est parti à la synagogue, les femmes de la famille, elles ont fait les matzot. Eh oui, faire des matzot, c'est pas obligé d'être un truc en carton, qui va craquer à chaque choc. La matza, c'est de la farine, de l'eau, moins de 18 minutes, boum, t'as une matza. Donc en fait, leur matzot, ils l'ont fait sur le taboun, sur le truc comme ça rond sous le feu. Et on avait des matzot chaudes, et c'était de la faute, simplement, c'est de la lafa. Et quand on est arrivé à Korer, Zecher le Mikdash Keilel, mais c'est Korer. Tu prends la matza, tu mets le maror, et tu mets également le charoset, pourquoi pas, et tu mets également le korban pesach, normalement, au Beth Amikdash. Nous, les Ashkenazim, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux morceaux de carton, on met du réfort. Nounou. Ça aurait dit mettre de la salade, de l'endive, hein, avec du charoset. Mais c'est pas kiffant. Ne me dis pas que c'est kiffant. Moi, je vais te dire ce qui est kiffant. C'est quand ta matza, c'est de la lafa, et que tu mets un peu de salade comme ça, bien coupée comme il faut, tu rajoutes du charoset un peu liquide comme ça, bien, bien comme une petite sauce sympa, et là, tu coupes dedans le shawarma. Et tu roules tout dans ta lafa, et là, tu te dis oui. Et c'est ça, Zecher le Mikdash Kehilel. Le rachat, il vient et dit, nous, ne me la joue pas religieux. Ma avoda azot lachem. Lachem velolo. C'est pour vous que vous kiffez, c'est pas pour lui. Ne me dites pas, oui, je fais ça pour Dieu, machin. Non. Tu kiffes ta lafa, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je kiffe ma lafa, nous dit le rachat. Mais ne me dis pas que c'est pour Dieu. Réponse. Mais tu as raison. Mon ami, tu as raison. Ba'avourze asa Hashem li betzeti mimitzraim. Li velolo. Dieu, il veut que je kiffe. Ça fait partie de mon devoir de kiffer. Et donc, c'est ça l'idéal de la relation mimata lemala. D'en bas vers le haut. Akadosh Baruch Hu nous a fait l'appel. Nous nous répondons à cet appel. Et grâce à cela, eh bien, grâce à cela, on peut tout simplement faire le pont et relier la créature au créateur. Je m'arrête là juste pour vous dire autre chose. Je ne sais pas, vu que vous êtes mon cours de mes amis proches, alors je vous dis la chose suivante. Vous avez certainement déjà vu, parce que ça a tourné sur Facebook, ça a tourné sur Internet toute la journée. Là, tu dis bonjour ? Comment on dit bonjour ? Hop là ! Dis bonjour ! Là, tu ne sais pas parler ? Bonjour !
Bonjour !
Bonjour ! Donc, vous avez certainement vu, tourné, entendu parler de la question du « Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Zoom, l'application Zoom, pour le soir du CEDER, pour être en contact avec le reste de sa famille ?» Ok ? Si la question se pose, si vous êtes vous-même posé cette question-là, en tant que rabbin de la communauté de Shorachim, je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard. Ça veut dire quoi un petit peu plus tard? J'ai évidemment soumis la question tant au Rav Cherki que au Rav Ben Ishai ce matin. J'ai vu évidemment le texte et tout ça, machin. Je ne me permettrai pas. Ça quoi? Ça coûte la parole? Ça coupe la parole depuis 5 minutes? C'est pas bon, oui. Là, tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Houston, we've got a problem? Non? Oui, oui, non? Tu ne réponds pas? Non? Oui? Bon, on va dire que tu m'entends. Donc, je disais... Ah, d'accord. Donc, je disais, par rapport à cette question-là de est-ce qu'on peut utiliser Zoom pour l'El Haseder, j'ai donc soumis la question au Rav Cherki et au Rav Ben Ishai. Quoi à eux? D'abord, parce qu'en fait, le texte vient pour l'instant des rabbins qui se revendiquent comme étant les rabbins séfarades, à savoir d'Afrique du Nord. Donc, le Rav Cherki et le Rav Ben Ishai étant des rabbins d'Afrique du Nord, je leur ai demandé. Les deux m'ont dit qu'ils sont en train justement de regarder le texte et tout ça pour dire ce qu'ils en pensent. J'ai pas encore demandé à un rabbin ashkénaz qu'il en pense. Le grand rabbinat d'Israël, pour l'instant, semble être extrêmement opposé à cela. Donc, on va voir. On va voir. Si jamais c'est permissible, ben on permettra. Et si jamais ça l'est pas, eh ben on permettra pas. Ça a l'air, donc je vous tiendrai au courant des avancées à ce niveau-là, mais une chose est sûre, nous sommes témoins de quelque chose d'extraordinaire grâce à ce corona, c'est que, eh bien, des questions halakhiques très importantes, tout d'un coup, eh bien, sont vraiment posées, et on a vraiment besoin de se prendre la tête pour donner des réponses au peuple juif, et c'est vraiment important. D'autre part, il y a des moyens de technologie qui auraient vu le jour, mais qui n'auraient pas forcément pris un essor comme celui-là si jamais il n'y avait pas eu cette dimension de confinement. Donc finalement, il y a peut-être pas mal de choses positives qui vont sortir de tout ça, sans évidemment amoindrir la difficulté des gens qui sont malades et de ceux qui ont perdu quelqu'un. Chas v'shalom. Donc je ne peux que vous souhaiter une très très bonne santé. Va falloir voir pourquoi est-ce que ça a coupé aujourd'hui. On essaiera de faire en sorte que ça coupe pas la prochaine fois. Et voilà. À bientôt les amis.